David Ganotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Fidélité Internationale. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Pour les investisseurs, clairement, on sent que le calendrier politique s'est invité dans leur gestion. Ils sont obligés aujourd'hui d'en tenir compte. Ils regardent les sondages comme pourraient le regarder les journalistes politiques. Est-ce que, effectivement, tout investisseur aujourd'hui doit avoir ce calendrier en tête et regarder ça de près?
Je pense que ça a effectivement des effets assez importants sur les marchés en ce moment. On peut penser à deux grandes zones. D'abord les États-Unis. Alors c'est vrai que les élections ont eu lieu l'an passé, mais l'arrivée au pouvoir de M. Trump est finalement assez récente. Les marchés ont beaucoup acheté l'histoire Trump, c'est-à-dire en particulier des plans de relance budgétaire et de baisse d'impôts assez massifs. Donc je pense que ça a joué dans l'envolée du marché actions américain. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller dans le cas des États-Unis du point de vue politique, c'est les premières annonces sur ces plans, parce que pour le moment, on n'a rien eu de concret, hein. On a eu surtout des marchés actions qui montaient dans l'espoir de futures mesures de relance de l'activité, de libéralisation de l'économie. On peut penser au secteur bancaire en particulier. Donc ça, c'est un premier point politique, effectivement, qu'il faut surveiller. Ce sont les annonces qui vont être faites par l'administration américaine concernant les mesures de soutien à l'activité. Et c'est vrai que ça jouera plutôt, a priori, sur 2018. 2017, c'est un petit peu joué, je dirais. Ça sera plutôt les effets sur 2018 qui vont être importants. Dans la zone euro, là, on a un agenda politique qui est extrêmement important aussi. Et là, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs, en particulier parce qu'on a des élections très importantes dans des grands pays. Donc, on peut penser à la France, évidemment, avec des élections présidentielles puis législatives, l'Allemagne, avec des élections qui sont très importantes aussi, les Pays-Bas et probablement l'Italie, à la rentrée. Donc, on a de grands pays et puis surtout, on a potentiellement, en termes de risque, des scénarios assez extrêmes, hein, puisqu'on a des partis, en France en particulier, qui prônent ouvertement une sortie de la zone euro. Donc après, je dirais, la surprise et la douche froide du Brexit l'année dernière, je pense qu'effectivement, les investisseurs sont un petit peu refroidis et un peu inquiets sur ces perspectives-là.
Ça veut dire peut-être qu'il y a moins de flux ou qu'il devrait y avoir plus de flux, par exemple, sur les marchés européens, compte tenu de la performance des marchés US notamment,
Oui.
ou de termes de valorisation, et finalement les flux sont en attente.
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'appréhension de la part en particulier des investisseurs internationaux, je pense en particulier aux investisseurs anglo-saxons et asiatiques aussi, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont du mal à appréhender nos systèmes politiques et donc ils perçoivent le risque politique de façon assez importante, en particulier sur la France. D'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont eu des mauvaises surprises l'an passé avec des résultats d'élections ou de référendums qui ont été contraires aux attentes et à ce que disaient les sondages. Donc, du coup, ça refroidit un petit peu. Et effectivement, je pense que ce manque d'entrain de la part des investisseurs internationaux pour l'Europe explique en grande partie le retard de l'Europe, puisque même si elle a monté, et même si elle a plutôt bien digéré le Brexit l'an passé, elle accuse un retard quand même assez important. Si on regarde la performance globale de l'Europe en 2016, hein, c'est presque 10 points de moins que les marchés mondiaux. On a une Europe qui est à peine en positif, et depuis le début de l'année, c'est correct pour l'Europe aussi, ça monte, mais par rapport en particulier, comme vous le disiez, au marché américain, c'est très en retard. Donc je crois qu'il y a une prime de risque politique sur l'Europe qui explique le retard de performance des marchés actions européens.
On a vu des écarts sur les taux aussi, on a vu entre la France et l'Allemagne par exemple.
Oui, donc on retrouve à ce niveau-là aussi, je dirais, des primes de risque politique, et en particulier sur la dette souveraine française. C'est évident que la probabilité, même si elle est faible, de sortie de la zone euro, de la part de la France, induit forcément une prime de risque sur la dette publique française.
Les investisseurs étaient quand même poussés depuis des années à aller sur les marchés actions, par notamment les banques centrales. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de valorisation quand vous regardez les marchés? Vous parlez du marché américain, le marché européen, on en est où?
Alors, je dirais, c'est assez différencié. Au global, je dirais qu'on n'a pas de signal trop fort qui nous dise que les marchés actions soient très fortement sous-évalués ou trop fortement surévalués. Donc, on est loin d'une situation de bulle. Ceci étant dit, quand on regarde les différents marchés, il y en a un qui ressort quand même, et je dirais un petit peu en négatif, c'est le marché américain, puisqu'il est assez cher aujourd'hui, hein. Il a toujours été cher, il se paye toujours avec une prime. Mais depuis, je dirais, la fin de l'année dernière, avec cette envolée du marché qui a quand même fortement monté sans réelle nouvelle concrète, on a un marché qui se paye presque 18 fois les bénéfices futurs. Donc ce n'est pas, je dirais, terrifiant. Ce n'est pas une situation de bulle, mais c'est un niveau de valorisation qui devient un petit peu ennuyeux parce que potentiellement, On a moins de coussins de sécurité pour digérer des mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est un point que je pense qu'il faut surveiller et qui, nous, à notre sens, justifie pas de l'inquiétude, mais une certaine prudence vis-à-vis du marché américain, alors que d'autres marchés, je pense en particulier à l'Europe, sont beaucoup plus attractifs du point de vue des valorisations.
Alors, il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé au cours des dernières années et qui s'invite à nouveau pour les investisseurs, c'est de savoir si finalement l'inflation n'est pas repartie. Alors avec l'élection de Donald Trump, il y a eu ce sujet-là, mais même en Europe, on en reparle à nouveau. Quelle analyse on peut faire sur l'inflation qui est en train de remonter, en tout cas les chiffres
Oui,
d'inflation qui sont supérieurs aux
c'est vrai
attentes?
que. Alors, je pense qu'il faut nuancer parce qu'effectivement, on a des chiffres d'inflation qui accélèrent un petit peu, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, il y a essentiellement l'accélération liée à la hausse du prix du pétrole, puisque depuis un an et demi, on a eu quand même une forte montée du prix du pétrole, et donc ça se traduit dans les mouvements de l'inflation. Comme ça a expliqué d'ailleurs la forte baisse qu'on avait vue sur la période précédente. Donc je pense qu'il faut faire attention parce qu'une grande partie de ces mouvements viennent du mouvement des prix des matières premières. Ceci étant dit, dans le cas des États-Unis, là aussi, c'est un petit peu particulier puisque c'est une économie qui est quand même bien avancée dans le cycle économique. C'est une économie qui va fêter ses 8 ans d'expansion. Le creux de la récession, c'était le printemps 2009, mars 2009. Donc on va fêter là, en fait, aujourd'hui, les 8 ans d'expansion de l'économie américaine. Et il est normal qu'à ce stade-là du cycle économique, on commence à voir des tensions inflationnistes apparaître. Et c'est effectivement ce qu'on voit, alors de façon très modérée, sur le marché du travail en particulier, avec une petite accélération des salaires qui est progressive, mais elle est normale compte tenu des niveaux de taux de chômage.
Ça a clarifié la visibilité qu'on a sur la hausse des taux aux États-Unis
Voilà,
par
donc
la Fed.
ça explique effectivement le fait que, avec cette économie qui va bien, même très bien du point de vue conjoncturel, avec ces pressions inflationnistes qui, sans être inquiétantes, commencent à monter, et quand en plus vous avez un nouveau président qui annonce des mesures visant à dynamiser un petit peu plus l'activité, c'est vrai que c'est normal que la Réserve fédérale soit dans un mode beaucoup plus clair en termes d'évolution future des taux, et en indiquant en particulier que les hausses de taux courts vont se poursuivre. Elles ont été très modestes jusqu'à présent, une hausse des taux en 2015, une hausse des taux en 2016. Je pense que 2017, on risque d'avoir beaucoup plus de hausses de taux, et dès le mois de mars. Hein, la dernière communication a été assez claire de la part de Mme Yellen.
Le mot de la fin rapidement, l'allocation d'actifs, elle bouge comment?
Alors, l'allocation d'actifs aujourd'hui, elle est plutôt, je dirais, modérément en faveur des actions. Je pense que ça reste un actif qu'il faut avoir en portefeuille et qui est le plus à même de bénéficier de cet environnement de croissance. On n'en a pas parlé. On a parlé beaucoup des risques politiques, mais c'est vrai qu'il y a un environnement de croissance qui est plutôt porteur. Donc, ça, c'est plutôt favorable aux actions. En gardant en tête quand même et en surveillant de près les États-Unis, parce qu'on a un marché qui commence à être un petit peu cher, comme on le disait, et puis on a potentiellement quelques. Je dirais mauvaise surprise peut-être du point de vue de la politique économique, puisque les marchés ont beaucoup anticipé des choses très positives. Et en revanche, effectivement, sur les marchés de taux, bah, plutôt des perspectives de remontée des taux. On a évoqué la Réserve fédérale. Alors c'est vrai que la BCE n'est pas du tout dans cette urgence et que l'Europe apparaît moins à risque que les États-Unis, mais on est quand même plutôt dans un environnement où les marchés obligataires risquent d'être plutôt pas très bien orientés, sans que ça soit une catastrophe non plus.
Merci David Ganozzi.
Merci à vous.